Oui, bonjour, je suis Guillaume dans l'Isère. Eh ben, j'apprends à la radio que la plus grosse centrale nucléaire d'Europe a été attaquée par les Russes. Et j'aurais bien aimé que Monsieur Jancovici vienne nous rassurer et nous expliquer qu'en fait, c'est pas plus grave que d'aller à la piscine. Voilà, merci, bonne journée.
Bonjour, Dominique de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels à Orléans. Demain, samedi 5 mars en Normandie, à Auto-en-Auge dans le Calvados, aura lieu le lancement officiel Fréquence Grenouille, campagne grand public de sensibilisation à la préservation des zones humides. Découvrez le programme sur réseau-seine.org, rubrique Opération nationale, Fréquence Grenouille. À bientôt.
Sébi, Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. J'avais déjà laissé un message il y a quelques mois avec un collectif. On occupait Bicèdre Centenaire qui jouxtait l'hôpital de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Des cèdres magnifiques. Voilà, ce mardi matin, alors que le jugement a toujours pas été rendu, qu'on a attaqué le permis de construire qui est entaché d'erreurs, 9 camions de CRS débarquent à grand renfort de bûcherons, etc. Ils expulsent les occupants de notre petite ZAD. C'est le pire moment pour couper des arbres au mois de mars parce que les oiseaux sont en train de nicher et en 2 heures, des 10 cèdres sont tombés. Une immense tristesse, vraiment. Voilà, c'est terrible. Mais merci d'en parler. Et la lutte continue. Au revoir.
Bonjour la Terre au carré. C'est Michel du Pays de Bray. Dans cette société où tout le monde critique tout le temps, je souhaitais vivement féliciter et remercier France Inter. Parce qu'entendre sur une radio de grande écoute des annonces pour Terre de Liens ou pour le défi zéro déchet, je pensais pas le vivre un jour. Bravo pour cette implication. Quand c'est bien, il faut le dire. Ciao, bye.
Merci pour vos appels. Michel, je vous signale justement qu'il sera question de Terre de Liens aujourd'hui au cours de cette Terre au Carré au Salon de l'Agriculture. Et puis en attendant, bien sûr, laissez-nous vos messages sur le répondeur 01 56 40 45 45. La 58e édition du Salon de l'Agriculture ici à Paris, à la Porte de Versailles. Cet après-midi, donc la Terre au Carré part à la rencontre de la nouvelle génération de paysans dans un contexte où le renouvellement générationnel et la transition écologique font figure de véritables défis. Dans les 10 ans qui viennent, plus du tiers des exploitations agricoles françaises vont en effet voir leurs exploitants partir à la retraite et leur remplacement est loin d'être assuré. Alors, qui sont ces jeunes agriculteurs et agricultrices qui ont décidé de s'engager dans ces métiers souvent difficiles? D'où viennent-ils? Comment perçoivent-ils les enjeux du développement durable et du réchauffement climatique? Eh bien, c'est ce que nous allons leur demander. Et comme tous les jours, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre avec vos messages. Si vous avez des questions à poser à ces jeunes paysans que nous allons rencontrer, vous nous rejoignez bien sûr sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec les notes vocales. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passera au vert à 14h30 en direct, bien sûr, du salon.
Et j'ai demandé aux visiteurs, petits et grands, si reprendre la ferme, tiens, ça pourrait les tenter.
Ça me plaît.
Non, c'est très très dur.
Moi honnêtement ouais, mais je voudrais m'assurer d'avoir des vacances.
Je crois qu'il faut du courage pour se lever tous les matins.
C'est un fabuleux métier franchement.
Bah peut-être à la retraite pourquoi pas ouais. Si je suis encore en forme, ça peut être trop cool.
Pourquoi tu voudrais pas?
Bah parce qu'en fait c'est dégoûtant de ramasser les caca et tout.
Et voilà, à chacun ses raisons.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaray, préparée par Chantal Le Montagnier, avec à la technique aujourd'hui Olivia Branger, Thomas Coudreuse, Clément Vuillet, Ibrahim Seliem et Martin Guénard.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Tu veux devenir agricultrice?
Ben oui, j'ai réussi mes entretiens et ils m'ont acceptée dans un centre de formation agricole.
Tu m'en auras toujours fait voir, toi. Mais alors là, ça dépasse tout.
Maman.
Mais enfin, agricultrice. Qui a pu te fourrer une idée pareille dans le crâne?
Personne, maman, j'y pense depuis toujours.
Mais tu ne m'en as jamais parlé à moi. Tu te vois élever des cochons, conduire un tracteur. Tu vas avoir 30 ans, ma pouffie. Alors tes rêves de fermière, tu les ranges et tu reviens sur terre.
Voilà un extrait du film Une hirondelle a fait le printemps de Christian Carion avec Mathilde Seigné et Françoise Bette pour évoquer donc cette nouvelle génération de paysans cet après-midi donc au Salon de l'Agriculture pour comprendre eh bien ce qui motive aujourd'hui ces jeunes à s'engager dans ces métiers. Et pour démarrer, eh bien nous sommes Camille au hall 1, bien entouré.
entouré de vaches vosgiennes.
Absolument, et de Fanny Angie qui est avec nous. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous avez 23 ans, vous êtes éleveuse de vaches de race vosgienne. À quel endroit exactement ?
Alors, sur le plateau des Mille Étangs, dans les Vosges saônoises, c'est en zone de montagne, en Haute-Saône.
Et comme beaucoup ici, vous avez perdu votre voix pendant la semaine tellement vous avez parlé avec tout le public.
Oui, tout à fait.
Comment est-ce que vous avez décidé de vous engager dans cette voie ? Parce que vous n'étiez pas du tout issu d'une famille d'éleveurs au départ. Hein.
Alors non, je n'étais pas du tout issu d'une famille d'éleveurs, ni forcément destinée au métier d'éleveuse. Et puis depuis toute petite, j'ai aimé les animaux et j'avais un voisin qui avait quelques vosgiennes dans l'écurie avec des cloches. Et je me suis dit qu'un jour j'aurais moi aussi mes petites vosgiennes.
Donc vous faites du lait, du fromage ?
Tout à fait, oui. Donc le lait est transformé sur la ferme en différents types de produits laitiers, un fromage type Munster, une tome et des fromages frais.
Et des cloches, ben vous en avez ici d'ailleurs Fanny. Vous voulez nous faire entendre la cloche de votre vache qui s'appelle Namser. Donc vous pouvez voilà la faire sonner.
Ça c'est la cloche de compète, on est d'accord, c'est pas celle qu'elle a en ce moment autour du cou, elle est juste derrière nous, Namser, elle est allongée d'ailleurs, pourquoi ? Elle fait la sieste ?
Oui, là elle est en train de se reposer, elle est
crevée. Hein.
Elle est fatiguée aussi, comme les éleveurs.
Comment ils en sortent les animaux ? On pose toujours la question hein, des animaux au salon de l'agriculture, il y a pas mal de personnes qui critiquent parce que c'est hyper fatigant pour eux, il y a du bruit, c'est insupportable et c'est quand même dans des espaces très très petits, comment ils sortent de là ?
Oh, ça se passe généralement plutôt bien, les animaux sont fatigués, mais comme nous, elles sont contentes de rentrer à la maison. Après, elles voyagent quand même, on les promène, elles ne sont pas coincées dans leur stall toute la journée. Vraiment non, et puis c'est des animaux qui ont l'habitude de sortir, qu'on a préparé en amont à la maison.
Justement, vous l'avez préparé, Namser, à venir ici ?
Oui, Namser, ça a été plusieurs semaines de préparation, elle a été douchée, elle a été tondue, elle a eu une alimentation spécifique, et puis on l'a beaucoup, beaucoup fait marcher.
C'est votre premier salon ou pas, Fanny ?
Non, c'est le deuxième salon.
Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans le fait de venir ici, de quitter votre région et de venir avec votre vache ?
C'est une fierté de pouvoir participer à la promotion de la race. On est une petite race à faible effectif. Et c'est aussi une fierté d'avoir un animal qui est à la hauteur pour promouvoir la race, puisqu'elle fait partie des meilleurs animaux. On expose de très bons animaux. Donc c'est une fierté en tant que jeune éleveuse.
Alors justement, expliquez-nous ce qui vous a vraiment motivé, vous, au départ, parce que c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de renouvellement des générations aujourd'hui d'agriculteurs. Est-ce que c'est une considération que vous avez prise justement dans ce souhait de devenir vous-même agricultrice ?
Mais moi, j'ai toujours été plus passionnée par les animaux et l'élevage que l'agriculture. Je me définis plus comme une éleveuse que comme une agricultrice. Donc j'ai fait ça par passion des animaux, tout d'abord. Et après, c'est vrai qu'on est dans un contexte difficile où les exploitations peinent à trouver des repreneurs. La population d'exploitants est de plus en plus vieillissante. Et c'est un métier, ben, quand même, il faut le dire, difficile. On a du mal à accrocher des jeunes.
Mais justement, qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, donc à l'âge de 19 ans, vous avez commencé, vous aviez donc l'idée depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit j'y vais alors que vous savez que c'est ultra difficile ? Vous êtes une jeune femme, c'est encore plus rare.
La passion. C'est
vous ne saviez même pas ce que c'était avant de vous lancer finalement, c'était une idée que vous aviez. Mais...
Alors oui, effectivement, j'ai été salariée sur des exploitations agricoles, mais entre travailler pour un patron et avoir soi-même à gérer toutes les difficultés qu'on rencontre, effectivement c'est différent. Mais je ne le regrette pas et je voulais vivre de ma passion. Je ne me voyais pas faire autre chose et j'aurais été malheureuse dans un autre emploi.
Vous arrivez à en vivre aujourd'hui justement parce que ça fait partie des difficultés aujourd'hui.
Alors,
évidemment.
Alors pour le moment non, mais uniquement parce que mon installation est récente, donc que j'ai investi et il faut le temps. J'ai choisi d'investir pour le moment, mais je sais que mon système est viable et que d'ici quelques années, ça portera ses fruits.
Alors votre exploitation, vous avez combien de vaches exactement et qu'est-ce qu'il faut investir au départ quand on a envie de se lancer ? C'est quoi le plus dur au fond ?
Alors j'ai une petite quarantaine d'animaux, 100% en race vosgienne. Et alors, l'investissement premier, c'est le troupeau. Enfin, pour moi, c'était la priorité, pas le matériel, mais le troupeau. Un troupeau de qualité. On travaille quand même tous les jours avec, donc c'est agréable d'avoir des vaches plaisantes. Donc voilà, moi, mon premier investissement, ça a été le troupeau.
Ça représente combien d'argent ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ?
Plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Donc vous êtes endetté aujourd'hui, il faut le dire comme ça ?
J'irai pas jusqu'à dire endetté, parce que l'exploitation n'est pas déficitaire. Mais oui, il y a quand même eu des... Oui, c'est quand même...
Assez difficile.
Oui. Ouais.
Et vous dites que vous n'arrivez pas encore à vous donner un salaire, hein, c'est ça ?
Non, pour le moment pas. Il y a eu beaucoup d'investissements à faire. Et bah, notamment l'achat d'animaux. Ouais. Parce que bah, au début, dès qu'il reste quelque chose en trésorerie, on s'en sert pour augmenter le cheptel. Parce que bah, le but aussi, c'est de vivre. de sa production. Et donc non, pour le moment, je ne me sors pas de salaire. Et c'est acceptable parce que je suis passionnée. Après, je suis lucide sur le fait que je ne sortirai jamais un salaire à la hauteur de l'investissement que ça représente, des heures de travail que ça représente et de la charge mentale.
Et votre entourage réagit comment? Que ce soit votre famille, vos amis, vous avez 24 ans, on le rappelle. Il y en a d'autres qui sont peut-être encore même en train de faire leurs études, d'autres qui ont des emplois donc dans des entreprises.
Alors moi, tout le monde me soutient. J'ai la chance que tout le monde soit assez fier. Donc voilà, mais c'est important l'entourage familial et le soutien. Même que mes parents ne sont pas du tout issus du milieu agricole, ils m'ont toujours poussé à faire ce que j'aimais. Ma maman a accepté toutes mes folies quand j'ai commencé à acheter mes premiers veaux à 16 ans et à les mettre à la maison. Alors il n'y a pas de problème.
Ouais. Et alors vos copains donc, ils vous suivent, ils vous encouragent. Vous avez un conjoint qui n'est pas du tout non plus éleveur, hein, c'est ça?
Oui, non, mon compagnon n'est pas du tout éleveur, il est policier. Ah ouais. Mais il avait peur des vaches. Et un hamster, pour le premier veau, un hamster, c'est la première fois qu'il a dû approcher une vache.
Ouais.
Et du coup, il s'est pris d'amour aussi pour ces animaux et maintenant il m'aide. Ouais.
Et justement, votre amour, tiens, des animaux, vous nous disiez, c'est la passion, etc. Vous êtes éleveuse, vous faites du lait, du fromage, mais il y a quand même la question du bien-être animal et de leur devenir aussi. Comment vous gérez ça?
Alors moi,
vous avez des animaux qui partent à l'abattoir, notamment des veaux.
Oui, tout à fait. Alors moi, la question de la réforme des animaux, c'est encore un point sensible pour moi. Ça fait que 4 ans que je suis installée, donc je n'ai pas encore été confrontée à devoir réformer beaucoup de vaches.
Ça veut dire quoi réformer?
Alors réformer, c'est tout simplement quand un animal n'est plus productif. On reste quand même une entreprise, même si c'est difficile à entendre, même pour soi. Et donc, il y a passé un certain âge, quand l'animal ne produit plus de lait ou ne peut plus avoir de veau, alors il est envoyé à l'abattoir.
Et vous, alors, comment vous gérez ça?
Alors, pour moi, c'est encore une question difficile. Donc, les petits veaux mâles partent. Donc, ça, on n'a pas le choix. On peut pas garder tous les animaux mâles. Et pour les femelles, pour le moment, j'ai encore du mal à réformer. Mais je crois qu'on est tous dans le même cas. Surtout que la race vosgienne est une race qui vieillit très bien. Donc, on a des animaux dans les troupeaux de plus de 10, 12, 14 ans. Donc, quand on a passé 14 ans avec une vache, elle fait partie de la famille.
Et vous nous disiez, en préparant l'émission, que vous avez même une ou deux vaches, je crois, qui sont quasiment devenues des animaux vraiment domestiques, quoi.
Oui, j'ai deux vaches de compagnie, notamment ma première vache que j'ai eue à 16 ans, qui n'a jamais réussi à faire de petits veaux. Mais que j'ai choisi de garder parce que j'y suis attachée comme à un animal de compagnie.
Elle s'appelle comment?
Marguerite.
Fanny, on le dit souvent dans l'émission, l'agriculture a un rôle très très important à jouer dans les décennies qui viennent pour la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous motive dans votre choix de faire ce métier-là aujourd'hui?
Ah oui, tout à fait. Nous, on est en zone de montagne, on a déjà des soucis d'eau en été et c'est un enjeu très important. On essaie de travailler le plus proprement possible, de s'améliorer constamment. Parce que quelque part, on a envie aussi de préserver notre environnement et nos paysages. Et on a la chance d'être dans un contexte magnifique et on a envie de le préserver pour nous et pour les générations futures.
Fanny, vous savez que votre vache Namser a une voisine qu'on connaît, puisqu'on l'a croisée au mois d'octobre avec Camille dans les Vosges,
c'est Edelweiss. Et elle roupille, peinarde.
Et,
ouais.
Et évidemment,
elle ne nous calcule pas du tout, on ne va pas nous aider d'ailleurs.
Il y a son papa qui est là, Florent Campello. Bonjour Florent.
Bonjour Florent.
Bonjour.
Ça va bien? On va vous donner le micro de Fanny. Vous êtes ici évidemment au Salon de l'Agriculture. On s'était rencontrés chez vous à Mittelaar, dans la vallée de Münster, dans les Vosges. Vous avez un stand qui est ici. Je vous ai vu vendre des gendarmes et des saucissons. Ça va, le business marche bien?
Ça va, ça va. Si Camille nous mange pas tout, ça ira.
Elle a bien boulotté avant l'émission.
Oh, la balance.
Alors, comment Eva Edelweiss? Parce qu'elle pionce, parce que c'est vrai qu'elle a l'air un peu fatiguée aussi. Hein.
Voilà, ça commence à devenir fatigant pour elle. Là, il y a beaucoup de monde, les éleveurs sont là, les touristes sont là, les visiteurs sont là. Et c'est vrai que là, elle commence à devenir fatiguée. Vous avez vu le nombre de copines qu'elle a à la maison, donc du coup, ça les manque.
Justement, au retour, quand elle va rentrer, est-ce que les autres vont la réintégrer normalement? Est-ce qu'elles vont lui donner une petite période de transition?
Edelweiss, c'est une chef, donc elle va tout de suite reprendre sa place de chef.
Et elle sera pas du tout fatiguée? Elle a pas besoin de récupération au retour dans la ferme?
Non, elle va rentrer, elle va se retrouver ses copines, se coucher tranquillement dans la logette, et puis après, au bout d'une journée, c'est passé, elle oublie le salon. Ça fait son quatrième salon qu'elle fait ici.
Oh,
donc c'est une vieille habituée, quoi.
Elle a l'habitude, effectivement. Florent, ici, votre occupation, évidemment, c'est de répondre aux questions du public qui vient vous voir. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous posent des questions sur le métier et dont vous sentez qu'il y aurait une sorte d'envie quand même à s'engager?
Oui, alors les jeunes, on les rencontre beaucoup. On voit qu'ils sont intéressés par ces systèmes d'exploitation qui sont vecteurs et porteurs d'économie, porteurs d'emploi. Et du coup, on nous demande, mais comment vous faites avec une trentaine de laitières pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir sortir un salaire. J'ai rencontré beaucoup de lycées à travers ma présidence du Coram. Et les lycées aujourd'hui, ils sont au top, quoi.
Mais vous nous disiez, quand on était chez vous, donc dans les Vosges, vous aviez été ultra honnête sur votre rythme de travail, votre salaire. Ça, vous leur dites aussi, ça ne les effraie pas ?
Bien sûr, je crois que Fanny, elle l'a dit avant, faut pas faire ce métier pour gagner de l'argent. Faut faire ce métier par passion. Et ma foi, on vit avec un petit salaire, mais on est heureux. Et je crois que on se nourrit de l'amour de nos animaux. C'est ça notre salaire à nous. Ouais,
c'était un petit peu plus de 1000 euros, hein, votre salaire. C'est ce que vous nous aviez
1000 euros par mois,
ouais. En octobre. Euros par voilà. Mois. Mais vous pensez que ça peut motiver des jeunes, ça, aujourd'hui, sincèrement ?
C'est difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, les politiques sont amenés à changer leur façon de voir si on veut encore des éleveurs en France demain, quoi.
Allez. En tout cas, on va vous laisser puisque vous avez plein de gens qui vous attendent. Fanny, merci beaucoup.
Merci à vous.
Reposez votre voix et puis je sais que vous rentrez dans vos régions respectives à partir de dimanche puisque ce sera la fin du salon. Dans un instant, on fera connaissance avec une association qui justement travaille sur le renouvellement des générations en venant directement aux aides aux paysans qui veulent se lancer. James Blake sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Qui va reprendre la ferme ? C'est la question d'aujourd'hui, hein, Camille. Hein,
grande question, hein, puisqu'on rappelle un chiffre, 100 000 fermes en moins dans les 10 dernières années en France. C'est une ferme sur 5 qui a mis la clé sous la porte.
Voilà, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris. C'est jusqu'à dimanche, hein, pour venir rencontrer donc, les agriculteurs et leurs animaux. Des animaux, il y en a beaucoup plus de 4 000. Hein. On a tout vu, des bovins, des ovins, des chevaux, des ânes, des lapins, des cochons.
Il y a des moutons en face de nous, ouais.
Ouais, et même des chiens et des chats, d'ailleurs. Il y en a vraiment pour tout le monde. Bonjour Clotilde Bateau.
Bonjour.
Vous êtes la déléguée générale de SOL, c'est l'association alternative agroécologique et solidaire qui porte avec 5 autres organismes la plateforme Passerelle Paysanne. Et vous, bah justement, le problème du renouvellement des générations, c'est au cœur de votre démarche. Hein.
Tout à fait. La plateforme Passerelle Paysanne, c'est une plateforme d'information en ligne qui a pour objectif de faciliter l'installation des futurs agriculteurs et agricultrices.
C'est-à-dire que moi, je me dis, j'ai envie de me reconvertir, Mathieu Vidard, j'en peux plus, je veux redevenir paysanne. c'est une sorte de quoi, de mode d'emploi, de kit pour m'aider à m'orienter parce que je ne connais rien et je sais pas par où commencer.
C'est exactement un kit qui résume un petit peu toutes les étapes importantes pour s'installer en partant de deux constats. Il y a 50% de nos agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans et par ailleurs, nous, acteurs de terrain qui accompagnons des futurs agriculteurs, on est confrontés à un effet où les non issus du milieu agricole nous demandent, nous posent énormément de questions sur comment s'installer.
Donc c'est vraiment ces personnes-là auxquelles vous vous adressez, c'est-à-dire ceux qui justement sont pas du sérail et qui n'ont pas de famille, par exemple, d'éleveurs ou d'agriculteurs.
Hein. Exactement, l'objectif pour nous, c'est de faciliter l'accès à l'information et notamment de leur proposer une cartographie qui recense plus de 300 acteurs qui accompagnent sur le terrain aux différentes étapes de l'installation des futurs agriculteurs.
C'est quoi justement les étapes? Alors, il faut commencer par où? Parce que j'imagine que c'est une grande pagaille dans laquelle il faut se retrouver.
Alors justement, nous, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il n'y a pas forcément une étape de démarrage indispensable et une étape finale indispensable. Chaque futur agriculteur, chaque porteur de projet a un petit peu son parcours unique, personnalisé. Et donc, c'est nos 6 organisations qui se sont regroupées pour un petit peu toucher à toutes les étapes. Par exemple, l'association Terre de Liens, qui permet un accès plus facile au foncier, Sol ou les réseaux des CREFAD, qui proposent un accompagnement sur le terrain avec un paysan tuteur, ce qu'on appelle le compagnonnage paysan, ou encore les réseaux CIVAM ou la FADEAR FADEAR, tout à fait, c'est une fédération d'agriculteurs qui appuie les futurs agriculteurs pour réfléchir au modèle économique, au modèle environnemental de leur future exploitation.
Mais vous, dans ces associations, vous êtes vous-même des agriculteurs ou pas? Parce que comment on enseigne le métier soi-même?
Comment être sûr que vos infos sont fiables, autrement dit?
Oui, tout à fait. Alors, le message justement que l'on porte, moi je suis une citoyenne engagée, le message que l'on porte, c'est que citoyen agriculteur, on va être en capacité, c'est nous qui allons être en capacité ensemble de pouvoir installer massivement des agriculteurs dans un modèle agroécologique qui va préserver l'environnement.
Ça veut dire que il n'y a pas d'erreur possible entre guillemets en vous suivant, enfin, parce que quand même, justement, quand on n'y connaît rien, l'important c'est d'avoir des informateurs, des sources fiables. Hein, ça c'est valable dans tous les domaines, n'est-ce pas? Et du coup, comment je suis sûre que en m'adressant à Passerelle Paysanne, donc, je vais pas me planter au bout du bout?
Bah, par exemple, à nos 6 organisations, on rassemble à peu près 25% des agriculteurs et on forme à peu près entre 10 et 15% des futurs agriculteurs français. Et donc, pour nous, justement, on va favoriser des installations autonomes qui respectent le territoire, mais aussi l'environnement, la planète, hein, puisque finalement la vision que l'on porte, c'est à la fois une installation paysanne qui est un métier, mais c'est aussi un mode de vie ce qu'on propose. Et c'est fortement ce que portent souvent les personnes non issues du milieu agricole. Elles ont envie de s'installer dans un mode d'agriculture qui a un sens.
Alors justement, c'est quoi le profil de ces nouveaux paysans? Alors, est-ce que d'abord il y a plus de femmes qu'avant? Est-ce que ça, c'est un phénomène que vous constatez ou
tout
pas?
Tout à fait, tout à fait. Alors,
ils viennent d'où? Qui ils sont?
Alors, c'est vrai que en majorité, ils sont plus âgés. On a 40% des personnes qui ont plus de 40 ans.
Donc des reconversions.
Voilà, on a énormément de reconversions professionnelles. Il y a aussi beaucoup de femmes, à peu près 30%, qui justement portent ce modèle environnemental assez fort et des modèles agricoles en circuit court, de lien avec le consommateur en direct, hein, sur le territoire.
Et ça représente combien de personnes au total alors qui vous sollicitent? Parce que vous nous parlez 30%, 30% de combien?
Alors à nos 6 structures. Alors déjà, il faut savoir que c'est très difficile aujourd'hui de nous compter. On a des statistiques qui sont difficiles et c'est justement un des projets qu'on a pour l'année prochaine à nos 6, voire même à nos 10, puisque au-delà de nos 6 organisations, on s'intègre au sein d'une organisation qui s'appelle le Pôle Impact, donc qui rassemble 10 organisations paysannes qui portent un projet d'agriculture citoyenne pour la protection
donc,
de la planète.
Donc pas de chiffres sur le nombre de personnes qui vous sollicitent?
Alors aujourd'hui, ici, on est en capacité de, comme je vous disais, de dire qu'on représente à peu près 10 à 15% des porteurs de projets qu'on accompagne. Mais je peux pas vous donner un chiffre des personnes finalement installées.
Non, mais juste savoir combien de personnes ça faisait, en fait, 10, 15%, combien ça fait de personnes?
Alors, ça représente à peu près 150 000 personnes.
Clotilde Bateau, est-ce qu'il y a un certain nombre d'idées reçu ou une sorte d'idéalisation contre laquelle il faut lutter justement quand vous faites face à ceux qui ont envie de devenir paysan parce qu'on s'imagine des choses peut-être qui ne correspondent pas à la réalité, souvent très difficiles. Est-ce que c'est aussi votre rôle de remettre un peu les points sur les i au départ avant de s'engager?
Alors c'est vrai que du côté de Sol, été confronté assez vite effectivement à un vrai phénomène où la majorité des futurs agriculteurs qui nous contactent veulent devenir souvent maraîchers. Du coup, un des objectifs, ça a été de créer ce parcours sur le terrain, ce fameux compagnonnage paysan, pour sortir un peu de l'idéalisme de ce qu'est le maraîchage aujourd'hui. Et donc, on propose à ces futurs agriculteurs d'avoir un paysan tuteur au sein d'un réseau de fermes formatrices où ils vont être formés dans des fermes très diversifiées. Petit élevage, horticulture, maraîchage, un paysan boulanger.
Donc c'est l'heure de vérité, là.
Hein. Ouais, exactement. L'idée, c'est de sortir justement de cette idéalisation et d'avoir aussi un rapport avec l'économie, l'environnement quotidien, comment on va développer nos débouchés commerciaux.
Oui, c'est un petit rappel, parce que alors, on va citer Thomas VDB, l'humoriste qu'on recevra bientôt d'ailleurs dans l'émission, Mathieu, qui dans son spectacle en ce moment autour justement des enjeux climatiques, dit voilà, on a l'impression qu'aujourd'hui c'est hyper facile, genre je vais tout quitter, je suis à Paris, je vais devenir agriculteur comme si c'était facile, et à l'inverse, on imagine un agriculteur dire non mais c'est bon, j'en peux plus, je vais tout quitter, je me lance dans la finance ou dans je sais pas quoi. Non, ça marche pas comme ça.
Alors ça ne marche pas comme ça, je crois que les précédentes personnes l'ont dit, ça reste un métier extrêmement difficile pour lequel effectivement il est difficile de se rémunérer, d'avoir aussi du temps pour soi.
Qui s'apprend,
exactement, pour lequel on a besoin d'être formé, et c'est justement en fait l'agrégation de ces 6 organisations qui pour nous permet d'être formé vraiment sur toute la chaîne, de l'accès au foncier jusqu'au terrain en apprenant en fait avec un pair.
Merci beaucoup Clotilde Bateau. Je rappelle que l'agroécologie et la relocalisation, c'est vraiment aussi au cœur de votre démarche, et que le lien de passerelle paysanne est en lien sur la page de la Terre au Carré pour peut-être des auditrices et des auditeurs qui vous entendent et qui se disent ben pourquoi pas, c'est une sorte de rêve que j'ai. J'aimerais bien franchir le pas. Il suffit tout simplement d'aller vous rencontrer pour voir si c'est possible. Merci beaucoup à vous. Dans un instant, on fera connaissance avec une jeune femme qui s'appelle Cécile Donati, qui est stagiaire ici et qui elle aussi a décidé de se lancer dans ce métier de paysan.
France Inter. La Terre au Carré.
Et vous aussi, Camille, vous avez fait pas mal de rencontres ici au Salon de l'Agriculture.
Et oui, vu le manque de bras dans l'agriculture, je me suis baladée dans les allées du Salon pour savoir, au-delà de s'extasier devant les petits agneaux trop mignons qu'on a oublié qu'ils allaient finir à l'abattoir, au-delà aussi de tâter le cul des vaches, d'avoir donc qui serait prêt à enfiler les bottes et reprendre la ferme.
Non, je ne peux pas, parce que je suis une vraie Parisienne.
Ça te plairait, vous, non?
Non.
Non.
Ça vous tenterait?
Je pense pas. Honnêtement, non, je trouve que c'est très dur. C'est très, très dur.
C'est quoi que vous trouvez dur?
Les horaires. La plupart du temps, qu'on entend, ils n'ont pas de vacances. Les pauvres, ils ne sont pas bien rémunérés. Par rapport à tout ça, je pense non. Moi, je ne pourrais pas faire ça.
Ah, voilà, les difficultés du métier et quelques clichés aussi.
Enfin, l'image que j'ai de l'agriculture, c'est que c'est très isolé. C'est une personne dans sa petite ferme avec sa famille qui voit personne d'autre, qui a les amis de son village, et ses amis c'est les vaches. Et
donc ça leur donne pas trop envie à ces jeunes de 24 et 25 ans en train de regarder des veaux.
C'est un beau métier, mais je pense que ça se fait de moins en moins. Les jeunes n'ont plus trop envie de faire ça. C'est plus un métier qui va faire son temps peut-être, je pense. Même si on en a besoin aujourd'hui quand même encore, ça va faire son temps.
Mais oui, mais comment on fait s'il n'y a plus d'agriculteurs?
Bah, il faudra trouver une alternative à ce moment-là. On importera au pire.
Alors, bof, cette option d'importer, on va pas se le cacher. D'ailleurs, beaucoup de visiteurs ont bien conscience que sans agriculture, pas de nourriture.
C'est un métier remarquable. Et on a besoin des agriculteurs aujourd'hui pour faire ce travail, puis les produire français pour qu'on puisse consommer français, c'est très important.
C'est ça le truc, en fait. On a vraiment besoin. Donc à partir du moment où on a besoin, il faut vraiment inculquer aux enfants, en fait, la relève.
Les enfants, justement, la relève, comme a dit cette maman. J'en ai croisé plein, bien sûr. Certains pas super motivés.
Eh bien, j'ai pas trop l'attention, mais je trouve que c'est un bon métier.
Pourquoi tu voudrais pas?
Parce qu'en fait, c'est dégoûtant de ramasser les caca et tout.
Mais d'autres sont plutôt partants.
Ça me plaît. Je veux être fermier.
Toi, t'as pas peur, toi?
Non.
De te lever très tôt?
Non.
De pas avoir de vacances?
Non.
T'es prêt à tout?
Oui.
Hein, j'ai quand même essayé de le déstabiliser, ouais. Il est vaillant. Et alors, mention spéciale à Léna, elle a bientôt 11 ans, venue de Fontenay-aux-Roses en banlieue parisienne.
Oh,
Franchement, je sais que c'est dur, mais c'est de la labeur et du travail qui paye et qui fait qu'on a de bons produits français et dans plein d'autres pays aussi. Plutôt qu'il y ait plein de fruits et légumes qui viennent de très loin dans des avions ou d'autres...
Ouais, du monde.
Oui. Lina, tu pourrais être la relève.
Oui, avec plaisir.
Alors, elle m'a assuré que c'était son discours à elle, hein, mais Lina est visiblement quand même à bonne école avec ses parents. Pas du tout du sérail, mais écoutez comment il parle du métier.
Je trouve que c'est une chance plutôt.
C'est notre rêve, je vous assure, mais on n'a pas les moyens de s'offrir ça, malheureusement.
Un rêve, oui, quand on parle d'agriculture aujourd'hui, que Gigi aimerait voir plus mis en valeur et tout le temps.
On fait la lumière sur les agriculteurs, sur les fermiers là dans le salon, mais une fois que le salon est fini, ça y est, on tourne la page et c'est dommage. Parce qu'il y a beaucoup de fermiers qui sont en difficulté, et qui se retrouvent dans un cercle infernal. L'État, normalement, devrait aider ces gens-là, ces agriculteurs, qui donnent beaucoup de leur temps pour justement perdurer ces fermes et tout ça, et ces produits. Donc quand ils sont en difficulté, l'État doit être là, il doit être présent quoi, pour eux. Quoi.
Plus d'accompagnement pour rendre aussi le métier plus attractif et attirer donc de nouveaux profils. J'ai un candidat potentiel d'ailleurs.
Ah oui, moi ça pourrait me tenter, ouais. Ouais. Bon, pour se lever tôt, faudrait faire des efforts au début, mais après on s'habitue quoi.
Vous faites quoi aujourd'hui comme boulot ?
Je fais une thèse en intelligence artificielle.
Très
très loin des champs.
Et pourtant, donc, hein, comme quoi, même si on rappelle ce terrible chiffre, hein, 100 000 fermes de moins en France en 10 ans, une sur 5, il peut y avoir encore de l'espoir, toutes générations confondues.
Et c'était Camille Passauvert que vous pouvez bien sûr réécouter sur franceinter.fr. Et nous avançons, Camille.
Oui, on avance. Est-ce qu'on peut dire un truc ? Allez, on va le dire.
Ouais.
La chronique, en fait, on l'a enregistrée juste avant l'émission parce que là, on vient de se taper un sprint pour aller à un autre pavillon.
On a besoin d'aller d'un hall à l'autre. Et je peux vous dire que chronométrer, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, donc, on a fait tout ça au pas de charge et accompagné de Cécile Donati. Bonjour, Cécile.
Bonjour.
Vous avez 22 ans.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous faites ici au Salon de l'agriculture ?
Alors moi, je suis élève à l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse et je fais mon stage de fin d'études dans l'association qui s'appelle le collectif Nouveau Champ. C'est une asso de 600 producteurs français. On est essentiellement sur des fruits et légumes et on promet le label zéro résidu de pesticides.
Donc vous êtes étudiante ingénieur, mais vous êtes dans une association de producteurs. Quel est le lien ?
En stage, voilà, c'est ça.
Pourquoi vous êtes dans cette asso, vous ?
Moi, je m'intéresse beaucoup à toutes les démarches agroécologiques. Et cette association est assez connue dans le milieu du fruit et légumes. Donc c'est naturellement que je me suis tournée vers eux pour demander un stage.
Alors,
ils ont accepté, je suis très contente.
Vos parents sont dans le milieu du fruit ?
Oui, mon père est agriculteur, il fait des clémentines de Corse, en Corse du coup.
Ouais.
On a une petite exploitation qui fait 4 hectares. Voilà.
Et c'était logique que vous repreniez le flambeau ou pas pour vous ?
Alors, moi j'ai toujours été intéressée par l'agriculture, que ce soit l'agriculture du milieu végétal mais aussi l'élevage. Donc pour moi, faire des études dans ce milieu-là, oui, c'était logique. Je me suis régalée, je suis un petit peu triste que ce soit fini. À la fin de mon stage, je vais être diplômée, mais c'était vraiment 5 très très belles années.
Mais est-ce qu'un ingénieur agronome, c'est un paysan aussi ?
Évidemment, on a quelques pourcentages de notre école qui partent s'installer en agriculture. Moi, je pense que c'est totalement compatible de faire des études et d'être agriculteur. C'est même bénéfique pour l'exploitation parce que, certes, je m'intéresse à l'agriculture, mais pas que. Je m'intéresse aussi au circuit de commercialisation, à la plus-value du produit. On a la chance d'avoir une IGP qui permet de valoriser nos produits. Donc oui, je pense que c'est bénéfique pour l'exploitation d'avoir un ingénieur sur ces terres.
Et vous, votre projet, donc Cécile, 23 ans, c'est quoi ? C'est de reprendre l'exploitation de vos parents ? C'est...
Oui, alors je suis encore un petit peu jeune. Je pense que ça se fera pas d'ici un ou deux ans.
Fanny est 24 ans, hein,
c'est
à
vrai.
La Cévache.
C'est
vous,
vrai,
vous
c'est vrai.
Vos clémentines.
Non, mais moi, je parle vraiment à titre personnel. Je pense que d'ici, oui, 5 ans, je vais peut-être revenir. Pour l'instant, j'aime découvrir toutes les expériences du milieu agricole.
Mais objectif clémentine
Objectif
ou pas,
clémentine.
Ou peut-être vous allez faire
objectif
autre chose.
Clémentine. On a la chance, j'ai la chance d'avoir un papa qui nous aide avec mon frère qui fait la même école que moi d'ailleurs, qui est en première année à Purpan. Il nous aide énormément à faire des bons choix. Il a acheté récemment plusieurs hectares pour pouvoir agrandir la ferme parce que si on va être plusieurs à travailler dessus, forcément, il va falloir qu'on s'agrandisse. Et on a plein de projets, donc c'est super.
On parle beaucoup, hein, depuis le début de l'émission, de la pénibilité de ce travail, des salaires assez faibles. Ça, c'est quelque chose qui vous rebute pas, vous, de votre côté ?
Non, alors, comme j'ai grandi dans ce milieu, j'ai eu une enfance, sans vous mentir, qui était exceptionnelle. Moi, j'étais cavalière, j'avais mes chevaux dans les champs de Clémentine, avec la maison à côté. J'ai vraiment pas ressenti de douleur au niveau de mon enfance. Donc, c'est pour ça que je veux me destiner vers ce métier.
Mais on l'entendait, là, même dans les témoignages des visiteurs, hein, beaucoup qui disent « Ah non, mais moi, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end. » À 23 ans, on n'a pas envie d'être un petit peu plus tranquille, avoir un petit peu moins de soucis, un petit peu moins de contraintes et profiter de la vie, comme on dit.
Moi, ma manière de profiter de la vie, c'est de vivre de ma passion. J'aime beaucoup l'équitation, comme je le disais, je vais pouvoir reprendre mes chevaux. Ça ne me fait pas peur. Franchement, honnêtement, c'est même quelque chose qui m'encourage.
Et en termes de transition écologique, l'exploitation aujourd'hui de vos parents, elle est quoi ?
Elle est en bio, elle est 100% bio. Et moi, je travaille donc pour le label Zéro Résidu de Pesticides. Ça peut être aussi une porte d'ouverture pour se diversifier. Si
donc
moi,
sortir du bio, en fait ?
Non, avoir une autre parcelle engagée. C'est compatible, tout est compatible.
Mais c'est quoi le zéro, alors,
pesticides ? Le Zéro Résidu de Pesticides, c'est un label qui promet zéro résidu. Pour ça, on est suivi par des laboratoires accrédités COFRAC par l'Union européenne qui sont indépendants. On a plusieurs analyses qui sont faites au cours du vie du végétal et avant la commercialisation. Et pour ça, on met en place beaucoup de techniques agroécologiques pour se passer de pesticides, parce qu'évidemment, il faut pouvoir réduire son utilisation de pesticides.
Mais on peut quand même en utiliser, c'est ça ?
On peut en utiliser certains qui ne tracent pas. Voilà, parce que certains pesticides restent dans les fruits et légumes, d'autres se dégradent, et donc on a la preuve avec les analyses qu'on mange des produits sains.
Et pourquoi vouloir utiliser quelques pesticides plutôt que ne pas en utiliser du tout, comme font vos parents d'ailleurs ?
Alors, mes parents utilisent des pesticides, mais des pesticides naturels. Voilà. Nous, on sait que ce qui fait notre salaire, on en parle beaucoup, c'est notre rendement, notre rentabilité dépend beaucoup du nombre de fruits qu'on vend. Donc, pour utiliser certains pesticides, mais en agriculture raisonnée plus, si je peux dire, c'est aussi se garantir un revenu.
Merci beaucoup, en tout cas, Cécile.
Merci à vous.
Bon vent à vous, alors.
Merci beaucoup.
Et puis merci pour la carte postale. Je vous ai vu sur votre cheval au milieu des champs de Clémentine en Corse. Franchement, ça nous a fait beaucoup de bien.
Si vous voulez venir, on vous recevra avec plaisir.
Avec grand plaisir.
Et vous pouvez faire envie donc à d'autres jeunes de votre âge qui nous écoutent, ou plus jeunes.
Ah oui. Et moi, je pense que vraiment, pour découvrir l'agriculture, il n'y a rien de mieux que d'aller voir des agriculteurs, aller voir ce qui se passe sur le terrain pour comprendre que c'est vraiment un super métier.
Restez avec nous, car dans un instant, toujours au Salon de l'agriculture, on va parler culottes, sol et terres agricoles. On vous dit tout après Alexia Grédy.
Dis-toi, tu ne ressembles à personne, mais tu me fais drôlement penser aux oiseaux, aux oiseaux. Dis-moi, je n'en ai plus la moindre idée, comment nous sommes-nous retrouvés à cette terrasse de café.
J'ai eu envie de l'embrasser. Il m'arrive encore. Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Et nous sommes en direct du stand culotte du Salon de l'Agriculture.
J'ai des cils partout au-dessus de ma tête.
Alors c'est vrai que c'est un stand qui nous a un peu attiré quand même. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on voit trois culottes accrochées à un fil.
Il y en a une impeccable, il y en a une pas top et il y en a une complètement...
Déglinguée,
mangée.
Voilà. Et derrière ces culottes, il y a un homme qui se marre. Voilà, oui, il s'appelle François Mandin.
C'est
bonjour,
notre
François.
Défilé de lingerie pour attirer le chaland, on va dire.
Oui, on va expliquer.
Merci.
Vous êtes agriculteur en polyculture et élevage à Luçon, c'est en Vendée. Et vous présidez l'APAD, qui est l'association pour la promotion d'une agriculture durable pour une agriculture de conservation des sols. Alors on va droit au sujet, c'est quoi le rapport entre ces culottes pourries et les sols?
L'agriculture de conservation des sols, elle remet le sol au centre et notamment sa fertilité. Et pour imager le fonctionnement biologique d'un sol, eh bien on a eu l'idée de mettre du coton dans le sol et voir à quelle vitesse ça se dégradait. Et plutôt que de mettre un tablier, on a mis des slips, et vous remarquerez c'est des slips d'hommes parce que on a été très très prudent sur l'usage qu'on en faisait. C'est des slips d'hommes, un qui est dans le placard, un qui est mis dans un sol travaillé, et celui-là qui a été mis dans un sol non travaillé.
Ça veut dire
en
quoi,
en agriculture de conservation des
travaillé
sols.
Pas travaillé,
alors,
c'est quoi alors?
Labouré, hercé, on mélange, on ramène de l'air mais on ôte de la vie dans un sol quand on la travaille. Quand on travaille pas un sol, on favorise la vie biologique des sols.
C'est ça, c'est l'opération plante ton slip, elle s'appelle comme ça, cette opération. Donc on peut le faire chez soi, on plante un slip dans le sol. Et en fait, on est d'accord que si notre slip ressort tout blanc, impeccable, c'est très mauvais signe pour notre sol. S'il ressort déglingué, comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est parfait.
S'il se transforme en string, mais c'est du coton que vous mettez. Si vous mettez des tissus synthétiques, ça ne fonctionne pas. Avec du coton.
Et blanc.
Vous le retrouverez et à 7-8 cm de profondeur, vous levez une motte, vous reposez sur votre pelouse, ça marche super bien. C'est les micro-organismes, c'est les champignons. Évidemment, là, ça peut être des vers de terre, ça peut être des insectes du sol. S'il y a une taupe, vous êtes mal, parce que la taupe, elle peut partir avec.
On va pas retrouver.
Ça, c'était une façon accrocheuse et marrante d'intéresser le public justement à cette question essentielle du travail du sol.
Et la question de remettre le sol comme pilier de l'agriculture demain, et c'est ce qu'on porte au sein de notre réseau. On est des agriculteurs, moi j'en suis un, je suis président de cette association, mais qui regroupe 15 associations dans toutes les régions de France. Vous pouvez trouver autour de vous plein d'agriculteurs qui le pratiquent.
Donc sur votre exploitation, les slips, ils ressortent comment, vous ?
Ah, moi, j'ai plus que les ficelles, parce que moi, ça fait 25 ans que je n'ai jamais travaillé mes sols. Et vous avez une photo, par exemple, chez moi, là. Vous voyez, je suis en train de semer du maïs. Imaginez cette rupture culturelle de se dire... Je vais pouvoir semer dans du vivant pour remettre une plante vivante. Oh, je vois madame qui a les yeux qui...
Non, je regardais votre
madame
tracteur.
Madame Cronier dubitative.
Je regardais votre énorme tracteur, je me demandais s'il faisait pas du mal au sol, cet énorme tracteur.
Ah, et c'est pour ça que le sol est toujours couvert. Parce que grâce aux plantes et grâce à la végétation, on réduit l'impact du compactage du sol. C'est parce qu'on laboure un sol, qu'on met de l'air dedans, que quand on reroule dessus, on l'écrase. Et on fait l'inverse.
En quoi la conservation des sols, donc, ça permet de lutter aussi contre le réchauffement climatique, François Mandin ?
Parce que, grâce à ce processus, on ramène de la matière organique dans les sols, on la laisse, on l'écrase, c'est du carbone, et ce carbone, c'est le carburant de la vie du sol. C'est vraiment la nourriture pour toute la vie du sol qui est à la base de toute la diversité.
Ces pratiques aujourd'hui que vous décrivez très vertueuses, elles sont répandues ou pas, honnêtement ?
Alors, elles sont très répandues dans le monde.
Oui, mais
elles sont en voie de développement en France et on participe en tant que réseau d'agriculteurs à son développement. On est à l'émergence de l'agriculture de demain. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 2% des agriculteurs français qui appliquent ces pratiques. Et moi, je suis sûr qu'avec ce qui arrive aujourd'hui, le changement climatique et la reconnaissance, on va passer à 10, 15, 20%.
Vous savez quoi, François? Parce qu'on a besoin d'être guidé. Là, on est paumé dans le hall 4. On doit aller voir l'association Terre de Liens.
Donc
vous allez nous guider comme ça. On va
continuer à discuter.
Tout en marchant.
Est-ce que justement, moi, je voulais vous demander la nouvelle génération d'agriculteurs, on va dire, quel que soit son âge, mais en tout cas les nouveaux, ils sont plus sensibles à ce genre de pratiques.
Alors oui, ils sont plus sensibles, et vous avez raison, c'est pas une question d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vient vraiment de front auprès des agriculteurs cette question du lien à l'environnement et au réchauffement climatique, et oui, aujourd'hui, il y a réellement une prise de conscience partout en France.
François, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de développer de très grosses exploitations tout en réduisant justement l'impact environnemental sur les sols ? C'est compatible ou pas,
C'est très compatible. possible. Et c'est même la particularité, c'est de lier un acte de production extrêmement fort avec une protection environnementale très efficace. Et c'est pas la taille qui fait la difficulté, c'est la capacité des hommes à le mettre en œuvre.
C'est pas la taille qui compte, vous avez entendu. Pourquoi alors personne ne le fait? Pourquoi ils le font pas plus?
Ah, il y a plein de raisons, d'ordre culturel, d'ordre sociologique, de construction, de politiques publiques qui sont adaptées, mais on voit que c'est en train d'évoluer.
Et alors justement, ce travail que vous menez, là, François, il permet à des agriculteurs qui n'avaient pas forcément conscience de l'importance des sols, ce qui paraît d'ailleurs très étonnant.
Je suis désolé, j'ai pas entendu.
Le travail que vous menez, ça permet à des agriculteurs qui n'ont pas forcément conscience de l'importance des sols de changer un peu leur pratique aussi.
À tout à fait, c'est notre travail de formation et de développement que l'on fait partout en France. On est organisé de formation parce qu'on est persuadé que c'est par la formation de pair à pair qu'on arrivera à faire ces changements.
Ça y est, on est arrivé.
Oh là. Ah, et là, c'est plus des slips accrochés, c'est des petites plantes.
On était un peu paumés. Merci François,
merci
en tout cas.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et à se retrouver dans les parcelles.
Et donc, si on peut planter son slip pour les auditeurs, c'est quoi? C'est à partir du mois
de
mars?
C'est très bien au mois de mars. Vous les mettez maintenant, vous les déterrez en juin et vous prenez les photos. Et ça sera super. Vous verrez si vous avez de la vie biologique dans vos sols.
Allez, on va terminer cette Terre au Carré sur le stand de Terre de Liens. On est toujours au hall 4. Bonjour Tanguy Martin.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de plaidoirie pour l'association Terre de Liens. Et à vos côtés se trouve Aymeric Duclos. Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Et vous êtes producteur de fruits rouges. Dans quelle commune?
Sur la commune du Pertuis, en Haute-Loire.
Voilà, c'est la montagne là déjà.
Oui, on est déjà à 1000 mètres d'altitude.
Petit message directement, on ne mange pas des fraises en ce moment Aymeric.
Non, en ce moment elles sont encore au repos. Ouais.
Tanguy Martin, vous, ce qui vous mobilise à Terre de Liens, c'est la disparition justement des surfaces agricoles utiles. C'est tout votre combat pour aider là aussi de jeunes paysans à pouvoir être locataires ou propriétaires de terres?
Oui, en effet. Alors, il y a deux choses. Il y a la disparition des sols sous l'artificialisation. Vous avez fait une émission d'ailleurs là-dessus il y a pas très longtemps. Je vais pas y revenir parce que votre sujet aujourd'hui, c'est le renouvellement des générations. C'est comment on installe des nouveaux paysans. Donc là, il y a effectivement une autre question qui est que on a dans les 10 prochaines années 20% de la surface agricole française qui va changer de main parce que les agriculteurs arrivent à la retraite. Et en fait, aujourd'hui, 2/3 des surfaces qui changent de main partent à ce qu'on appelle l'agrandissement, c'est-à-dire qu'elles vont vers des fermes qui existent déjà, qui vont grossir sans forcément employer plus. Et de fait, aujourd'hui, depuis 10 ans, on a perdu 80 000 équivalents d'emplois dans l'agriculture. Et si on continue pareil, ça va être de moins en moins d'agriculteurs. Et donc, comment on fait une agriculture sans paysans?
Et qui sont donc aux mains de grandes exploitations, donc de grands groupes, si je dois le résumer comme ça, de l'agroalimentaire.
Alors, il y a une petite frange effectivement qui va vers des grands groupes qui s'agrandissent et qui veulent verticaliser les filières, c'est-à-dire effectivement maîtriser toute la chaîne de production agricole. C'est pas la majeure partie, mais c'est de plus en plus prégnant, c'est de plus en plus existant. Il y a un livre qui vient de sortir là-dessus qui s'appelle Hold Up sur la Terre de Lucille Leclerc.
Ah oui, absolument.
Mais l'agrandissement, c'est aussi des fermes qui sont de plus en plus grande, petit à petit. C'est pas un phénomène forcément hyper spectaculaire en un an, mais par contre depuis 88 je crois que les fermes ont quasiment doublé de surface en France. Et donc c'est ça qui se passe, ce qu'on appelle la concentration foncière, et ça, bah, ça défavorise l'emploi agricole, et de l'autre côté ça favorise l'industrialisation, et donc c'est aussi la facture qui est payée par l'environnement.
Donc Tanguy, à Terre de Liens, vous achetez des terres pour les louer par la suite donc à de jeunes agriculteurs, mais vous, comment vous financez votre démarche? Alors elle vient d'où cet argent?
Il y a deux choses. C'est, on achète effectivement avec des citoyens des terres pour les louer à des agriculteurs en agriculture biologique. L'argent qui permet d'acheter ces terres et ces fermes vient d'épargne solidaire, c'est-à-dire tout un chacun qui pourrait être là autour de nous peut prendre quelques parts sociales dans une foncière, la foncière Terre de Liens, qui va acheter ses terres. Ça, c'est là d'où vient l'argent pour acheter les fermes. Après, nous, il faut qu'on fonctionne, il faut qu'on travaille pour pouvoir acheter ces fermes, ces terres. Et là, ben, ça va être des financements plus classiques, des subventions publiques, du mécénat, des dons, des prestations.
En tout cas, l'accès au foncier, c'est un des plus gros obstacles au départ quand on veut faire ce métier. Et ça, c'est la question que j'ai posée à Aymeric, peut-être directement, puisque vous êtes concerné. Ça a été pour vous vraiment quelque chose de compliqué au départ?
Oui, alors moi, pour m'installer, ça a été un vrai parcours du combattant. J'ai mis de nombreuses années à trouver des terres pour pouvoir enfin m'installer et devenir paysan. Et du coup, j'ai d'abord cherché dans ma région. Puis en étant hors cadre familial, c'est-à-dire en ayant des parents non issus du milieu agricole, j'ai dû me mettre à chercher beaucoup plus loin.
C'est-à-dire, c'était où votre région?
Je venais de l'Ain, dans le Bugey. Et en allant chercher beaucoup plus loin, j'ai trouvé des fermes, mais qui étaient, comme on l'a dit plus tôt, très très grandes, donc très dures à acheter, très chères, sur des surfaces immenses et ne correspondaient pas du tout à mes besoins, enfin à ce que je cherchais. Et c'est finalement, grâce à Terre de Liens, sur leur site des petites annonces, que j'ai trouvé une offre de reprise de ferme à taille humaine et à prix abordable.
Donc aujourd'hui, vous louez finalement les terres sur lesquelles vous cultivez vos fruits rouges.
Alors aujourd'hui, je me suis installé sur une surface assez modeste de 5 hectares. Et justement, pour limiter mon endettement au départ, j'ai acheté 1 hectare de terre et je suis locataire des 4 autres en fermage.
Ça, c'est une bonne façon justement de pouvoir commencer une activité.
Oui, c'est ça. C'est pour éviter de s'endetter et donc d'avoir beaucoup de difficultés économiques dans le futur.
Vous avez 28 ans, c'est ça,
Émeric? Oui, c'est ça.
Mais alors pareil, on a posé la question à tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous, venant pas du tout de ce milieu, vous a donné envie de vous engager alors?
Eh bien, moi, en fait, j'ai toujours été convaincu que l'agriculture, c'est vraiment le pilier d'une société. Et pour faire face aux enjeux du changement climatique et aux pollutions environnementales, je pense qu'il est un levier majeur, c'est de se détourner de l'agro-industrie et de se tourner vers des fermes agroécologiques à taille humaine et des productions biologiques. Et c'est vraiment pour devenir acteur de ce changement que j'ai souhaité être paysan et m'installer et changer un peu
vous
cette dynamique.
Vous faisiez quoi avant comme métier?
Alors avant, j'ai été un peu dans l'humanitaire, mais j'ai fait des études d'agronomie rapidement en ayant fait ce constat.
Et la transition, alors parce qu'on parlait tout à l'heure avec le type de bateau de l'idéalisation parfois qui se heurte à la réalité, est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Est-ce qu'il y a des déceptions peut-être et au contraire des bonnes surprises?
Alors non, j'ai été très très bien accueilli sur mon territoire. J'ai eu une chance d'avoir un cédant donc qui m'a transmis sa ferme, qui a été très accueillant. Tout le réseau qui entourait ma production en agriculture biologique, et je fais partie d'un groupement de producteurs, les Fruits Rouges des Monts du Velay, m'ont beaucoup accompagné techniquement et m'ont soutenu pour que je...
Donc vous avez aucun, parce que là, excusez-moi, ça fait un peu bisounours sans vouloir vous offenser, vous avez aucun écueil
Ah ben moi je savais que le travail était dur, évidemment c'est intense, on passe des longues journées, on passe beaucoup de temps dans nos parcelles, mais à la fois quand on sait pourquoi on le fait, je veux dire, ça fait sens et j'en suis ravi.
Et pourquoi les fruits rouges juste?
Eh ben parce c'était vraiment un choix, je voulais faire du fruitier et le fruit rouge, c'est vrai que c'est un fruit qui produit assez rapidement et qui est super intéressant à travailler.
Émeric, il y a des moments où vous doutez, où franchement vous n'avez pas le moral, vous dites mais dans quoi je me suis embarqué au point de vouloir arrêter l'activité, ou ça vous est jamais arrivé?
Ça fait qu'un an que je suis installé, donc je suis encore dans une dynamique très très positive et je pense qu'à des moments on doute tous, mais là pour moi ça fait tellement sens que je trouve qu'il faut que je continue.
Tanguy Martin, dans les personnes comme Émeric qui ont recours à Terre de Liens, y a quel profil et surtout vous représentez combien de paysans aujourd'hui en
Alors,
France?
Sur les fermes qui ont été acquises avec l'aide de Terre de Liens, il y a aujourd'hui environ 600 paysans sur 7000 hectares. Ça représente peu ou prou 300 fermes.
Et 7000 hectares sur la surface agricole française?
Alors, en France métropolitaine.
Ouais. Ça fait, oui, mais ça fait combien de toute la surface c'est quelle proportion de la... Finalement, Terre de Liens représente quelle proportion?
Oui, effectivement. C'est une petite goutte d'eau. Hein. Je crois qu'on est à environ 2 mètres carrés par hectare. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, la vocation de Terre de Liens, c'est pas de racheter ce qu'on appelle la ferme France. C'est de démontrer qu'il est possible d'agir sur la question du foncier. Tout le monde dit le foncier, c'est bloqué, la terre, c'est bloqué, l'accès à la terre, c'est impossible. Nous, on montre que non, il y a des moyens d'y arriver. On dit, oui, c'est difficile pour les jeunes de s'installer, etc. Là, on voit avec des gens comme Émeric, non, c'est tout à fait possible. Donc nous, on est là pour montrer que c'est possible, montrer la voie, mais tout seul, on ne va pas suffire à nous-mêmes et on a besoin que le politique prenne sa part. Et ce qu'on demande depuis très longtemps, en fait, c'est une grande loi sur les terres qui vienne renouveler un petit peu toute la régulation autour de la question de l'accès à la terre et donc faciliter ce qu'on appelle le renouvellement des générations. Et je reboucle sur ce que je disais au début. Dans les 10 prochaines années, on a 20% de la surface agricole française qui va changer de main. Est-ce qu'elle part à l'agrandissement ou est-ce qu'elle va pour installer des paysans nombreux, des paysannes nombreuses sur nos territoires, les faire vivre, mettre en place une transition agroécologique de l'agriculture? Voilà, c'est ça qu'on essaye de déclencher.
Voilà, Terre de Liens pour une agriculture engagée de proximité, biologique à taille humaine. C'est pour résumer un peu votre action. Et là aussi, on a mis évidemment le lien sur le site de la Terre au Carré. Alors, Émeric et Tanguy, parce qu'évidemment, on est nul en espèces animales. Là, on est devant des lapins monstrueux qui sont des lapins argentés de Champagne. Vous les connaissez, vous, ces bestioles, ou pas?
Absolument
du tout?
Absolument pas. Moi, je viens des Pays de la Loire. Émeric,
voilà, Émeric.
Plutôt tourné fruitier, j'avoue.
Voilà, c'est ça. C'est pas du tout votre rayon. Voilà. Donc, on va terminer avec ces animaux qui sont là.
Les argentés de champagne. Un petit mot, quand même, peut-être, Émeric, pendant qu'on regarde, ils sont en train de dormir aussi.
Ils pioncent, ils sont crevés, eux aussi.
Émeric, là, si les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en train d'hésiter, qui seraient tentés, mais ça leur fait peur, qu'est-ce que vous diriez à ces auditeurs-là et auditrices?
Je dis que c'est un magnifique défi à relever, mais qu'aujourd'hui, on en a besoin pour faire une société plus résiliente et écologique, de tous s'y mettre.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci pour votre accueil.
Merci
pour le public, le salon de l'agriculture, c'est jusqu'à dimanche. Donc vous avez encore deux jours pour venir ici vous balader. Et il y a largement de quoi faire.
Oui, Camille, on signale aussi quand même quelques gros géants de l'agroalimentaire, mais vous n'irez peut-être pas les voir.
On les a bien évités en tout cas, ouais. Cet après-midi. Tous les liens de l'émission, les infos sont sur le site de la Terre au Carré.